Il est 6h21. Notre invité est journaliste, réalisateur, producteur. Vous le connaissez si vous regardez l'émission 28 minutes sur Arte dans laquelle il intervient. Et il vient de sortir un livre sur les hashtags qui transforment nos vies. Bonjour François Saltiel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 5-7 de France Inter ce matin. Vous venez donc de publier Le Vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag aux éditions Flammarion. À travers le hashtag, ce mot-clé transformé par les réseaux sociaux et qui fête ses 10 ans, vous parcourez le monde et vous nous racontez 10 histoires du 21e siècle. Pour commencer, François Saltiel, vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est que le hashtag et surtout comment il est né.
Oui, bah il est né il y a 10 ans par un ingénieur de chez Google qui cherchait un moyen justement sur Twitter, qui était un réseau naissant, de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, puissent parler de la même chose. Et puis il invente donc ce mot-clé qui n'est pas vraiment un dièse, même si on a l'habitude de l'utiliser comme un dièse sur nos claviers de téléphone et d'ordinateur, mais plutôt un croisillon. Et il propose comme ça à la communauté, et si on utilisait ce symbole-là pour parler de la même chose en l'accolant par un mot ou un sujet. Et puis ça commence à prendre, et puis 2 ans après, Twitter se dit tiens, c'est un bon système, on va l'opérationnaliser. Et puis maintenant, ça a fonctionné avec un hashtag. Voilà comment il est né, ce petit salon numérique.
Alors, un petit symbole qui est devenu un grand symbole parfois de contestation, de mobilisation, cri de ralliement. Vous écrivez même l'arme du militantisme contemporain.
Bah oui, parce que ce qui est intéressant avec le hashtag, alors c'est vrai qu'on peut le voir à toutes les sauces aujourd'hui, hein, la publicité l'utilise, n'importe qui l'utilise. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de parler des hashtags qui ont fédéré, des hashtags qui ont suscité une mobilisation à travers le monde. Et il y en a eu plusieurs. Et c'est vrai que ça peut être un bel outil pour que les gens puissent se rassembler, puissent contester, puissent pointer du doigt certaines discriminations. On l'a vu notamment dans les pays arabes, lors de la révolution arabe, du printemps arabe. On peut le voir dans le monde entier. Le hashtag peut effectivement être un cri de ralliement.
Alors, on pense tout de suite, évidemment, parce que c'est sans doute le plus récent, c'est peut-être aussi le plus emblématique, au hashtag MeToo, le balance ton porc en français. Mais c'est le dernier chapitre de votre livre. Pourquoi c'est le dernier?
Parce que c'est le plus global, justement. Et puis, c'était le dernier en date. Et puis, l'idée de ce livre, c'était pas justement de commencer par un hashtag le plus connu, c'est de se dire il y en a d'autres, il y a des histoires originales qui ont lieu aux quatre coins de la planète, donc j'ai voulu les explorer. Maintenant, je pouvais pas passer à côté de MeToo, et comme vous le disiez, la force de MeToo, c'est que cette parole des femmes s'est libérée dans le monde entier. Il y a des dizaines, des vingtaines de pays qui ont été touchés par cette vague-là, qui ont permis aux femmes de témoigner des violences sexuelles qu'elles subissaient aux quatre coins du monde.
Le rédacteur en chef que vous citez, le rédacteur en chef du magazine Time, dit que ça a déclenché un des changements les plus rapides de notre culture depuis les années 60, manifestation de la puissance positive de Twitter. C'est une révolution, François Saltiel?
Oui, je pense que c'est une révolution, on peut le dire. Alors après, de quoi elle va accoucher cette révolution, on peut se poser la question, mais en tout cas, c'en est une. Pour reprendre MeToo, imaginez la même affaire Weinstein sans Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Harvey Weinstein, évidemment, le scandale est révélé dans la presse, il est évidemment mis à l'écart, et puis après, il y a sans doute quelques papiers journalistiques qui s'intéressent sur cette question-là dans le monde du cinéma, et puis je pense que ça s'arrête là. Ce qui se passe avec Twitter et avec MeToo, c'est qu'à ce moment-là, les gens s'en emparent, les femmes s'en emparent, et disent voilà, au-delà Weinstein, moi aussi je vis ça dans mon quotidien, des violences et du harcèlement sexuel, et puis pas que les femmes aux États-Unis, les femmes en France, les femmes en Europe, les femmes en Afrique, les femmes, même maintenant on le voit, en Asie. Ça a suscité un écho, une caisse de résonance qui est énorme, et c'est quand même grâce à l'outil. Sans l'outil, ça devient juste un scandale de plus. Avec l'outil, on se rend compte que c'est un phénomène international global qui peut donc susciter une révolution.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'en fait on se rend compte que sur la libération de la parole des femmes, le combat pour leurs droits, il y a eu plusieurs hashtags. Donc il y a eu MeToo, mais il y a eu aussi Women to Drive en Arabie Saoudite pour que les femmes puissent conduire, ou encore la Women March au lendemain de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est sur les réseaux sociaux désormais que les femmes mènent le combat.
Oui.
Pourquoi?
Je dis aussi dans ce livre que le hashtag peut être la voix des sans-voix, dans le sens où certains publics discriminés dans l'espace physique, comme peuvent l'être les femmes, on l'a bien vu en 2017, peuvent trouver sur les réseaux sociaux un autre espace pour pouvoir s'exprimer. Un espace où elles peuvent justement se confier, parfois en échappant au regard accusateur des uns et des autres, et puis un espace où elles peuvent se mobiliser pour imaginer une contestation et pour imaginer un mouvement. Donc c'est finalement ce que Nancy Fraser appelait l'espace des contre-publics subalternes. C'est là où on va quand, dans l'espace dominant, on ne se sent pas totalement à notre place pour pouvoir s'exprimer.
Donc c'est bien la preuve que Twitter ou même Facebook ne sont pas que des réseaux de fachosphère, d'insultes, de fake news, c'est ça que ça veut dire quand même.
Oui, ils existent, évidemment, hein, cette fachosphère, ce cyberharcèlement, on en parle quasiment tous les jours dans les médias. Et à raison, c'est un phénomène. Moi, ce que j'ai voulu explorer dans ce livre, c'est la face lumineuse des réseaux sociaux. On sait très bien qu'ils prennent de notre temps, on sait très bien qu'ils peuvent nous rendre addictifs, on sait très bien qu'ils peuvent partager des idées sombres, mais il y a aussi des idées positives, il y a aussi une phase lumineuse, il y a aussi une force d'émancipation avec les réseaux sociaux et notamment avec ce hashtag, et cette phase-là dont on parle un peu moins que j'ai voulu explorer dans cet ouvrage.
Alors, on va rappeler le titre de votre livre, hein, Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag, c'est le premier chapitre. Moi, j'ai appris plein de choses, je ne connaissais pas cette histoire, l'histoire d'un jeune Pakistanais qui bouleverse un peu finalement les relations avec l'Inde.
Oui, c'est une petite histoire, c'est presque un conte de fées, c'est un vendeur de thé pakistanais qui est très beau. Alors, je ne sais pas si Hélène, vous avez eu l'occasion de le voir
sur Internet.
Mais du
coup, j'allais voir. Voilà. Effectivement, donc, il est très beau.
J'encourage les auditeurs à aller le voir. Il est sur le marché d'Islamabad, il a 18 ans, il ne sait ni lire ni écrire. Et puis, comme chaque matin, eh bien, il sert son thé au chaland du marché. C'est ce qu'on appelle un chaiwala. Chaiwala au Pakistan, ça veut dire vendeur de thé. Et puis, il y a une photographe de mariage, c'est son métier. Elle se balade, elle déambule dans le marché, elle a son appareil en poche. Et puis, elle le voit au loin, elle voit cette beauté saisissante et elle décide de le capturer comme ça, avec une photo, une simple photo. Elle rentre chez elle le lendemain, elle décharge son appareil photo et puis elle la publie cette photo sur le réseau social Instagram accompagné de ce hashtag Chaiwala. En quelques jours, la photo devient virale, tellement l'homme est beau. Mmh. Mais jusque-là, c'est qu'une histoire de notoriété comme une autre, sauf qu'au même moment, eh bien, il y avait des tensions entre l'Inde et le Pakistan dans la région du Cachemire. Cette photo traverse la frontière, arrive en Inde, les Indiennes et les Indiens se disent « Mais il est magnifique cet homme-là, mais arrêtons d'envoyer nos bombes, la bombe atomique c'est lui !» Et l'espace d'un instant, ce héros devient une star au Pakistan. Tout le monde lui dit « Regarde, tu es partout », il n'avait même pas un téléphone portable pour le savoir. Et puis il devient une sorte d'ambassadeur de la paix à son insu, puisque quelque part, il dit un peu plus loin « Mon plus grand rêve, c'est de tendre la main à mon frère indien ».
Oui, puis finalement, il va peut-être faire du ciné, enfin, il va faire du sacré destiné.
Voilà, l'histoire se termine bien.
Ce jeune vendeur de thé. Le hashtag, est-ce que ça change, est-ce que ça empêche la mobilisation dans la rue? Par exemple, je pense à Oscar So White contre le monde du cinéma trop raciste, ou encore les Black Lives Matter, dont vous parlez beaucoup, contre les bavures policières raciales aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont changé les choses dans le réel? Est-ce que pour autant, derrière le hashtag, ça suffit finalement?
Non, ça suffit pas. Souvent, c'est une première étape. Justement, vous évoquez le hashtag Black Lives Matter, donc la vie des Noirs compte, qui pointe du doigt les violences policières à l'égard de la communauté afro-américaine. Eh bien, au départ, ça démarre sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a ce hashtag qui naît pour montrer le ras-le-bol, cette situation d'injustice totale vécue par cette communauté, et ça se transforme quand même en marche dans la rue. Black Lives Matter, c'est aussi des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui ont marché dans les États-Unis pendant plus de 3 ans. Donc souvent, c'est une mobilisation numérique. Si ça s'arrête là, je pense que c'est juste un phénomène de mode et ça retombe. Il faut qu'elle soit reprise par un relais médiatique, déjà dans un premier temps, et dans un second temps, ça s'accompagne souvent d'une mobilisation physique dans les rues.
C'est effectivement, comme on le disait, une nouvelle révolution, une nouvelle façon en tout cas de se révolter finalement.
Exact.
François Saltiel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hashtag le 5-7 France Inter.
Allez-y.
Je rappelle le titre de votre livre, Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag et autre histoire de hashtag qui transforme nos vies aux éditions Flammarion. Merci encore, bonne journée à vous.
Merci à vous.
Au revoir.